Bonjour et bienvenue aux entretiens de Cannes Contemporary, un podcast dédié au dialogue entre création contemporaine et archéologie. Pour ce deuxième épisode, nous avons invité l'artiste Katinka Bock à parler de son exposition personnelle « Some and Any Fleeting », exposition visible du 14 juin au 2 juillet 2022 à la Cannes Kunstraum à Bâle en Suisse. Une collaboration entre Cannes Contemporary et sa galerie française, la Galerie Jocelyn Wolff. Au cours de l'entretien, elle nous parle de la façon dont elle a pensé cette exposition, d'après les souvenirs d'une ville romaine. Elle revient aussi sur son rapport au temps, à la trace, à la mémoire, notion constitutive de son travail artistique. Elle évoque également le rapport ambigu qu'elle a entretenu avec les objets archéologiques et nous explique dans quelle mesure la photographie, entre autres, lui a permis de les intégrer dans son exposition. Cette conversation a été enregistrée au cours du montage de l'exposition. Pour compléter cette écoute, vous trouverez plus d'informations sur la page dédiée au podcast sur notre site internet, à travers lequel toutes les œuvres évoquées y sont référencées. Merci et bonne écoute. Bonjour Katinka.
Bonjour Manon.
Pour introduire cet entretien, j'aimerais qu'on revienne sur le titre de l'exposition, Some and Any Fleeting, qui évoque une certaine indéfinition, une éphémérité. Est-ce que tu peux revenir dessus?
J'ai une liste ouverte de mots qui me sont chers, que j'aime bien, et Some and Any en font partie. Parfois, donc, on trouve ces mots pour des titres d'œuvres ou d'expositions. Et en Sam et Danny, j'aime bien cette ouverture d'un groupe inspécifique. C'est un groupe distinct, mais qui on n'apprend pas beaucoup sur son identité. Et en anglais, Sam et Danny, c'est aussi utilisé dans des situations grammaticales différentes. Il y a la question, la négation, la phrase affirmative, et malgré tout, ça désigne le même groupe, la même personne, la même quantité. Et donc ça, je trouve très, très beau. Et le fleeting, flüchtig, donc quelque chose qui est fuyant, je trouve que ça fait partie de ce groupe qui est là et qui s'en va en même temps.
Et à propos de l'intégration des objets archéologiques dans cette exposition, comment s'est fait le choix de la photographie comme premier contact avec les œuvres antiques ?
J'utilise souvent la photographie pour me rapprocher d'un sujet. C'est la périphérie, le bord, mais c'est aussi un moyen d'être très proche, de faire des prises de vue très proches des œuvres. Et après ma première visite à Bâle, dans la collection, d'avoir passé une nuit avec les œuvres, d'avoir beaucoup discuté avec Jean-David, je suis repartie avec un sentiment de cette... un sentiment mitigé entre une attraction vis-à-vis de ses œuvres et de l'autre côté, de se sentir très loin, de rien savoir et que savoir aussi qu'ils ne vont jamais devenir les miens. Donc cette distance et leurs histoires ne vont jamais devenir les miennes. Et être dans une proximité et en même temps d'une distance, je me sers de la caméra parce qu'elle introduit un filtre, elle introduit un médium qui n'est pas l'objet même. C'est une lecture filtrée. Il y a aussi beaucoup d'informations qui manquent parce que ce sont des photographies en noir et blanc. Je montre comment des mains prennent, présentent, jouent avec ces objets. Donc il y a une lecture qui n'est pas seulement la juxtaposition d'une œuvre archéologique, une forme avec la mienne, pour ouvrir un dialogue direct qui serait trop direct pour moi.
Quelle est la place en fait de la photographie dans ton travail? Tu parlais de périphérie tout à l'heure.
L'œuvre photographique, et il est là depuis, depuis longtemps, depuis toujours, j'ai envie de dire. Et il est à la fois la périphérie et un centre. Parce qu'il y a des questions, des thèmes que j'appréhende à travers la photographie dans le quotidien aussi. Je photographie beaucoup avec la caméra dans la vie. De cette manière, je me rapproche des thèmes, des notions, des formes qui me sont chères, qui viennent souvent dans des questions vitales de comment vivre ensemble, quelle posture on prend vis-à-vis à l'autre, comment une intimité ou une domination ou un échange se fabrique finement. Tout ça, j'essaye de capter avec la caméra et c'est traduit ensuite ou vice-versa dans les sculptures. Et je dis que c'est la périphérie parce que c'est une zone un peu fleeting, un peu floue. C'est le bord, c'est la pose, donc c'est une forme d'un ensemble. Mais de l'autre côté, je prends ces photos très très proches, avec une petite distance. J'exclus le hors-champ, le cadre. Et dans les installations avec des sculptures, c'est l'inverse, où je tiens beaucoup à ce que les sculptures sont en dialogue avec des lieux, les uns avec les autres, que le grand angle fasse sens.
À travers ces photos, particulièrement, on y voit des enfants, enfin tes enfants, qui manipulent des objets antiques, même jouant avec. Je pense à leurs mains jouant avec des billes datant de la période dynastique de 3000 avant Jésus-Christ. Et est-ce que c'était une façon de redonner une fonction à ces objets, une fonction qu'ils auraient finalement perdue?
Ça, je ne sais pas, parce que je sais tellement peu sur leur utilité réelle à ce moment-là. Mais quand je suis repartie après ma première visite, c'était aussi la question de la transmission et de l'héritage qui était très présent, qui était aussi un sujet entre Jean-David Kahn et moi. Et comment transmettre, quoi transmettre, qu'est-ce qui se transmet sans qu'on le veuille, qu'est-ce qui reste. J'ai invité mes enfants de venir une deuxième fois avec moi. C'était pas une programmation très... c'était important, mais pas un programme mis en lumière. Parce que de toute façon, je fais ça toujours. Le travail et la vie privée sont très imbriqués. Donc quand je photographie dans un contexte très, très naturel, intime. Ce n'est jamais un photo shooting, ça vient comme ça. C'est une situation souvent drôle ou touchante, banale, mais dans tous les cas, familier. Et je les ai invités parce qu'ils avaient vu mes prises de vue de la première visite et ils ont dit « mais c'est super, on aimerait bien voir ça ». Et comme il y avait l'occasion, on s'est mis dans le train et on est venu. C'était assez spontané. Et on a passé du temps ensemble. Et il y a une improvisation, mais aussi une conscience de ce qu'on est en train de faire. Et ça pourrait être une autre personne aussi qui se trouve dans ce moment avec moi et ma caméra et les objets. Mais Mais en même temps, pas du tout, parce qu'il faut une situation détendue et de confiance. Et c'est surtout cette confiance-là qui fait jouer. Et qui fait jouer sans être pudique, sans être gênée, sans être dérangée.
Ces photographies, on les perçoit dans l'espace d'exposition directement, à travers les tirages argentiques, les posters aussi, mais aussi à travers les objets éditoriaux. Je pense à la publication autour de l'exposition avec la contribution de Fanny Fetzer et de Béatrice Gross, mais je pense aussi au One of Hundred. Et est-ce que tu peux revenir sur les éditions des One of Hundred? Quelle place ils occupent dans ton travail?
L'édition One of Hundred, je l'ai fait depuis une dizaine d'années avec Louis Luthier, qui est graphiste et écrivain. Et c'est une édition qui ne porte que des images et pas de texte. Il n'y a aucune indication d'auteur, ni de lui, ni de moi, ni de lieu, ni de date, rien. Et donc, c'est surtout une transmission orale qu'il apporte. Donc c'est vraiment autour de la transmission parce qu'elle est donnée de main en main. C'est une édition qui n'est pas vendable, que j'imprime en 100 exemplaires chaque fois. C'est pour ça que c'est One of Hundred qui est donnée de main en main, de ma main dans une autre. Donc, elle se perd aussi parce que je les donne à des amis, à des proches, à des intéressés. Ceux qui veulent savoir dans quel contexte ils ont été faits, qu'est-ce qu'ils racontent, je peux en dire plus ou moins, mais il n'y a pas de protocole fixe de ce qui doit être connu pour le regarder. Et donc j'aime beaucoup cette perte d'information et souvent aussi, j'imagine, de détournement. Et que ça m'échappe, que je ne prends pas note à qui je les donne. Ça vit sa vie. C'est à ça que je crois vraiment profondément, que l'art est là aussi pour perdre la trace et pour que ça vit sa propre vie. Ça devient autonome. Et chaque fois, les One of Hundred, ils ont un contexte et un temps précis. Je l'ai fait autour d'une exposition, une année, un voyage, une recherche, qui trouve souvent une forme d'une exposition. Mais ces photos sont, prises dans cette périphérie-là pour appréhender la forme, le lieu, le temps. Et souvent, elles sont faites avec ce qui m'entoure. Donc, ça peut être un paysage, mais souvent des objets, aussi des œuvres d'art, mais des personnes, la famille.
Pour continuer avec ces photos dans l'exposition, j'aimerais qu'on s'attarde sur les posters. Comment est-ce que tu as pensé la composition de cette frise au mur?
Alors, les photos de ce frise ne sont pas les photos de Summer Danny Fleeting. Ce sont des photos de certaines pièces qui sont dans l'exposition, d'autres de l'atelier ou de moments où j'ai pensé à cette exposition. Je les ai fait à Rome, mais aussi à Milan, dans la fonderie où j'ai fabriqué certaines de ces sculptures. Et elles sont utilisées dans un codage très libre, comme des lettres. J'ai travaillé avec Louis Luthé à nouveau sur ça. On a écrit avec ces photos Sam and Annie Fleeting sur le mur, comme on écrit un message sur les murs d'une ville. Comme des cailloux ou des chewing-gums sont souvent des piercings dans les murs, dans les rues. Je vais intégrer des objets sur cette frise. Ce sont des petits objets qui viennent de ma collection de petits bronzes des noyaux de cerise, par exemple, mais aussi des objets de la collection Cannes, qui ont différentes origines, mais souvent de couteaux, d'aiguilles pour porter des vêtements, plutôt des objets de quotidien, qui sont un élément pour servir d'autres, pour décorer, pour embellir, pour pointer un point, ce piercing qui traverse la peau, donc on traverse le mur pour pointer un endroit. Et voilà, je suis très contente, c'est la première fois que j'ai essayé ça.
Dans la continuité de ce que tu viens de dire, tu parlais de l'idée d'une ville, et c'est vrai que dans la préparation de l'exposition, tu disais vouloir avoir pensé l'exposition à partir de la sensation que tu as pu éprouver en découvrant la cité de Pompéi, avec ses places, ses forums, ses rues, ses lieux de rencontre, de circulation. Et c'est vrai qu'on ressent des dynamiques très fortes dans l'exposition. Et comment est-ce que tu as imaginé les contours de cette ville et de fait de cette exposition ?
Donc ce n'est pas un portrait de Pompéi, mais Pompéi, je l'ai revisité récemment et c'est là où j'ai senti ça très fort, comme quand on a des dents arrachées, il y a toujours cet espace manquant qui dessine une mâchoire, un volume, mais ça a aussi quelque chose de douloureux, cet arrachement. Sur ces fondements se dessine une cité et c'était aussi quelque chose que j'ai vu plus consciemment, vue du ciel, parce qu'il y a aussi dans ces posters des vues du ciel quand on passe à travers des nuages et quand on voit un paysage d'en haut, comment ces lignes de cité, de champs, parfois aussi que de montagnes, c'est des signes, mais c'est surtout l'inscription de l'homme qu'on voit quand on voyage, en tout cas en Europe. J'ai pensé à ça, à ces inscriptions dans le paysage, dans une ville, et pour cet espace qui est grand, qui est bas de plafond, qui a des inscriptions très fortes d'un passé, surtout au sol, où il y a déjà comme des lignes, des rues qui sont inscrites, et comme une ville qui se place au-dessus d'une autre ville, j'ai voulu suivre et rompre avec les lignes données. Donc les machines qui étaient placées ici au sol, ces machines qui étaient placées toutes en fil, elles ont laissé des traces au sol, et quand on regarde des bâtiments, souvent, ou des bâtiments qui sont des murs triangulaires dans le bâtiment, dans l'appartement, c'est une mémoire d'une rue précédente qui n'existe plus. Et c'est comme ça que j'ai construit l'exposition. J'ai construit des points de vue, j'ai tranché l'espace avec des grands tissus, des tableaux, qui donne des perspectives différentes, qui crée des places, des rues, des pièces qui rassemblent de l'eau de l'extérieur, qui rendent l'espace perméable. C'est donc comme une fontaine. Il y a des positions que pourraient prendre des habitants, la population dans cet espace, debout, allongée, couverte, dans un coin, avec des dents sorties, avec des griffes sorties, blessées sur un pied, en train de marcher. Voilà, ces positions que nous prenons, les habitants prennent dans une ville.
Et ton travail s'articule autour de notions comme la mémoire, la trace, le temps qui passe, comme tu as pu déjà l'évoquer précédemment. Et généralement aussi, tes expositions s'inscrivent dans des lieux en écho à leur histoire. Et tu viens de le dire, là, tu as essayé aussi de couper les dynamiques des anciennes machines qui habitaient cet espace. Et ici, j'ai l'impression qu'au-delà aussi du coup de cette sensation de ville romaine que tu décrivais, cette exposition, elle rassemble aussi des récits que tu as pu déjà déterrer et mis en lumière à travers des expositions passées, comme un enchevêtrement aussi de différentes temporalités. Je pense à For Your Eyes Only, qui est ce tissu bleu sur des panneaux qui ponctuent, comme tu disais, l'espace, qui à l'origine avait été exposé pendant plusieurs mois sur la terrasse, sur une terrasse à Copan, à Sao Paulo, et dont le tissu a été altéré par le temps qui passe et la météo. Et tout comme je pense aussi à Feuille de température. Bien, j'aimerais qu'on revienne sur le titre de l'exposition, Some and Any Fleeting, qui évoque une certaine indéfinition, une éphémérité. Est-ce que tu peux revenir dessus?
J'ai une liste ouverte de mots qui me sont chers, que j'aime bien, et Sam et Danny en font partie. Parfois, et le fleeting, flüchtig, donc quelque chose qui est fuyant.
Oui, tout ce que tu décris, c'est inscrit dans beaucoup des pièces, et donc t'es passé d'expositions précédentes, plus récentes. Il y a aussi, par exemple, Common People, c'est la fontaine de l'exposition. Et c'est un entonnoir en cuivre qui emmène de l'eau de pluie, s'il pleut, dans l'exposition et qui traverse une pierre. Et cette pierre, elle a des incisions, car ces incisions avaient une fonction précédemment, parce qu'elle était couchée sur un banc dans une chapelle, dans la Drôme. Et ce banc était propre à la chapelle, donc il est resté et la pierre est partie. Et maintenant, elle ne se penche plus, elle n'a plus de ce soutien par le banc, mais elle tient debout, toute seule. Et, et elle n'a plus besoin de ce contexte. Donc, j'adore ces moments de séparation entre un contexte très précis qui porte cette histoire et aussi souvent une histoire propre au lieu que moi je n'ai pas pris et créé, mais dans mes pièces s'imprègne, mais après de l'équité aussi. Et à Pivot, à Sao Paulo, c'était effectivement ces tissus qui étaient en attente pendant un an. Il y a d'autres pièces aussi qui s'appellent Recording Paper qui sont sur cette attente. Être quelque part et juste attendre, se faire oublier et ramasser, échanger. Les feuilles de température, ça, oui, ça, ce sont des moments exceptionnels où m'apporte cette confiance. Et c'était un cadeau d'un dôme, du Anzeiger Hochhaus. Ce sont des feuilles qui ont 100 ans, qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale, c'est un bâtiment qui était le gratte-ciel le plus haut de l'Europe pendant quelques années. C'est une histoire très touchante, mais de se libérer de ce contexte, autant moi comme artiste, mais aussi les pièces, je pense que c'est ça l'humanité aussi, d'être dans une sorte d'amnésie aussi. Et d'ailleurs, ce titre Amnésie, c'est aussi dans d'autres pièces, notamment une qui est couchée par terre, c'est une sorte de cuillère dentelée en bronze. C'est la figure qui est au repos, qui dort, qui se couvre avec une feuille de cuir, mais qui pourrait aussi se couvrir juste avec le sol. Ça a la même couleur. Et elle s'appelle Amnésie, donc c'est autour d'un oubli qui rompt aussi avec nos pères, nos mères, avec des monuments. Donc, on oublie pour regarder vers un avant. Et je crois que ça a beaucoup de sens aussi dans un contexte où il s'agit d'archéologie. Pas seulement poser le regard, de retenir et fouiller pour des informations anciennes, mais aussi de les laisser reposer et regarder en avant.
Et pour parler de ce qui se passe aussi dans l'espace du sous-sol, parce qu'il y a le rez-de-chaussée et aussi cette pièce en sous-sol, je pense à Paris Balancé, qui pour moi réellement fait comme un pont entre le passé et le présent, avec ce colosse en granit du Nouvel Empire qui date du 15e ou 13e siècle avant Jésus-Christ et qui accueille lentement une partie de ta sculpture, ce poisson. Comment est-ce que tu as pensé cette association?
C'est parti du mot. Je me souviens que Jean-David m'a montré cette sculpture qui est comme la jupe ou le bassin assis d'un dieu. Et on voit sur ses genoux encore ses mains posées, le reste n'y est plus. Et on pourrait lire aussi ce bassin, cette jupe, comme une coiffure, comme des cheveux. C'est traité à peu près pareil. Et j'ai juste vu un bout des fesses, je pense. Et ça m'a... Je trouvais ça très, très beau. Et après, très, très bizarre aussi, que ça s'appelle colossal, je t'attends. Donc quelque chose de colossal. Ça ne m'avait pas l'air tellement colossal. Quand on a essayé de lever, c'est devenu plus colossal. Et donc, je l'ai d'abord choisi pour son titre et pour ce petit bout de fesse que j'ai pu voir. Et après, aussi presque sans respect, je l'ai choisi. J'ai pas de barrière qu'on pourrait avoir par le non-savoir. Je ne sais pas l'histoire de cette pièce, mais elle est dans cette situation d'accueil. Je la trouvais accueillante. Donc je me suis dit, sur ces affirmes choses, sur son assise, elle pourrait accueillir quelqu'un. Et une sculpture que je fais voyager souvent, Paris Balancé, qui est un bol avec de l'eau et relié avec des poulies, avec une sculpture qui est un poisson, un carpe moulé en bronze, qui est une balance réelle et très sensible qui réagit avec l'évaporation d'eau. Ce poisson se baisse et normalement ce poisson se couche par terre après un certain temps. Et ici, je me suis dit c'est lieu d'accueil qui pourrait le recevoir pour se coucher.
Oui, puis l'eau, pour moi, je trouvais que c'était une œuvre qui était profondément au présent, d'autant que cette pièce change imperceptiblement au fil du jour, hein, avec cette eau qui s'évapore, hein, tout comme ces objets archéologiques aussi, qui connaissent aussi, bien que millénaires, des changements, des altérations.
Voilà, c'est vrai. C'est vrai, souvent, dans le moment où on retire la terre, où une œuvre est découverte, juste le contact avec l'oxygène peut la faire altérer et elle est réintégrée dans le cycle de la vie. Et l'eau, aussi vitale que destructive dans notre vie, est ici, l'indicateur du présent. Parce que ça change et parce que ça introduit le changement. Et un changement qui a lieu souvent quand on n'est pas là. Parce que raconter cette pièce semble spectaculaire. Ça parle de mouvement, de changement, de se coucher. Enfin, un spectacle, un film. Mais malgré tout, un événement qui a lieu. Mais cet événement, c'est très rare de le voir parce que c'est souvent un visiteur qui passe par hasard qui va le voir. C'est dans tous les cas pas moi. Et c'est souvent non plus les lieux qui accueillent la pièce qui la voient. C'est par hasard, c'est quelqu'un. Voilà, ça m'a donné.
Merci beaucoup, Katinka.
Un grand merci.